Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors, comme chaque semaine avec vous, et avec les différents intervenants de cette émission, on survole la paracha de notre semaine, le passage qu'on lit dans nos communautés chaque semaine. Et là, on arrive à une paracha qui s'appelle Shoftim. Et justement, alors, on va réfléchir sur Shoftim. Shoftim Veshotrim. Dieu insiste sur une idée, il veut qu'on se fasse des juges. Très important. Bien sûr, ça va contredire l'idée morale que nous avons tous appris, il ne faut pas juger les gens. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Il faut des endroits où les gens, je crois comprendre, je ne parle pas à votre place, où les gens se mettent d'accord sur la justice et rendent la justice et ensuite se conforment à ce qui a été décidé par rapport au droit ou par rapport à la justice. Il n'y a pas que le bien et le mal. Il y a aussi ce qui est juste, ou en tout cas ce qui a été décidé comme juste dans une société. Et apparemment, mais de nouveau, je ne parle pas à votre place, Dieu y tient et il veut qu'on agisse de cette manière.
Complètement. Complètement. C'est cette paracha de Shoftim Veshotrim, c'est-à-dire ce qu'on appelle des juges et des policiers. Titen locha bechol sharecha. Il faut que tu te les donnes à toi bechol sharecha dans toutes tes villes. Lishvatecha pour toutes tes tribus. Donc, c'est-à-dire que dans chaque tribu, dans chaque ville, il faudra qu'il y ait en effet des juges. Et Rashi nous dit de nouveau, de manière très intéressante, il dit « Maye mané dayanim mumrim vetsadikim lishpat tzedek ». Il dit « Il faut nommer des juges mumrim qui sont compétents, vetsadikim qui sont justes pour juger de manière correcte ». C'est intéressant. C'est-à-dire que, de manière générale, dans le système judiciaire, bon ben là, la vie privée du juge, bon, ben, c'est sa vie privée. Tant qu'il ne tue pas, tant qu'il ne vole pas, tant qu'il n'enfreint pas lui-même la loi, bon, ben, écoutez, il a fait ses années d'études, il connaît la loi, il connaît son code civil, son code pénal, enfin voilà, tout ce qu'il doit connaître, et donc il va juger. Ben, la Torah te dit non, la Torah ne dit pas du tout. Shoftim veshotrim titen dacha b'chol sharecha. Qui jugeront de manière juste, et donc il faut, il y a la foi qu'ils soient compétents, mais en mettant compétent et juste, c'est pour bien nous dire que la compétence tout seule ne suffit pas. C'est-à-dire que le juge doit être quelqu'un qui se distingue par ses qualités humaines, par ses qualités morales, de quelqu'un qui est tzedek, de quelqu'un qui est juste, c'est-à-dire qui agit de manière juste dans son existence, et qui donc va pouvoir intégrer cette droiture et cette moralité qui fait partie de lui-même dans la gestion de la loi. Et donc c'est intéressant parce que ça nous montre bien qu'il y a aussi ce que l'on appelle l'esprit de la loi. Alors bien sûr, c'est un terme sur lequel il faut faire extrêmement attention parce que l'esprit de la loi peut parfois nous faire oublier la loi en tant que telle. Mais l'esprit de la loi, c'est tout simplement comprendre que derrière l'élaboration du din, de la justice, il faut en effet intégrer toutes les données, tous les paramètres qui sont présents face à nous, et c'est seulement à partir de cela que l'on va pouvoir établir la justice. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, tout de suite, la Torah nous dit « attention de ne pas tomber dans l'univers de la corruption ». C'est intéressant de voir que la Torah voit tout de suite dans le monde de la justice la possibilité de corruption et va nous dire la chose suivante, car cette corruption est bien pervertie et fait que les choses ne sont plus justes. Et alors, le Talmud vous donne des exemples qui sont assez hallucinants, parce que nous, on voit la corruption comme étant « bonjour monsieur le juge, bon, un bon billet, et puis voilà ». Je pense que c'est parfois un peu plus subtil, mais ça peut être ça. Et là, la Gemara, le Talmud nous rapporte des histoires complètement folles, dans lesquelles, par exemple, quelqu'un était… Alors, il y avait un maître qui faisait partie du tribunal et il possédait des champs. Et il avait dans ses champs donc quelqu'un qui travaillait et c'était une forme de métayage. Et donc lui, entre autres, il amenait à donc ce propriétaire, à ce rave, à qui appartenait le champ, il amenait tous les jours, enfin, non, pardonnez-moi, il lui amenait de la récolte, il lui amenait, voilà, ça faisait partie des conditions qui lui donnent une certaine quantité. Mais ce qui se passe, c'est qu'une semaine, comme il doit aller se faire juger, alors il se dit, bon, ben, je vais le voir aujourd'hui, puisque de toute façon, je dois aller au tribunal, donc je vais lui donner déjà ce que je suis censé lui donner. Et il lui donne avec un jour d'avance. Et le rave le voit arriver, il lui dit, ben non, je ne peux plus le juger. Il dit, parce que ça m'a fait plaisir, quoi. Ça m'a fait plaisir de le recevoir aujourd'hui plutôt que demain. Donc, puisque ça m'a fait plaisir, qu'on le veuille ou pas, je ne peux plus te regarder de la même manière. Donc, évidemment, je risque de ne plus te juger comme la Torah nous le demande. Vous voyez jusqu'à où la Torah nous demande d'être vigilant, c'est-à-dire sur la subjectivité qui peut être la nôtre, à l'intérieur même d'un travail de justice dans lequel on est avec un code de loi et avec tout ce qui va autour. Alors, évidemment, on peut comprendre encore mieux pourquoi la Torah, tout de suite après de nous avoir dit ça, nous répète et nous dit « Tzedek, Tzedek, Tirdof », c'est-à-dire la justice, tu poursuivras, d'accord ? Le man tirier afin que tu vives et que tu puisses véritablement rester sur ta terre. Et Rashi nous dit « Tzedek, Tzedek, la justice, tu poursuivras, eh bien, cherche un tribunal de qualité, c'est-à-dire va suivant les tribunaux de qualité. » Tirdof, c'est pas simple de trouver un monde dans lequel vous avez des gens qui sont de cette droiture, de cette dimension de yashrut qui est réclamée pour les juges. Et évidemment, le texte nous dit, et c'est de ça dont dépend au fond l'équilibre du peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire que la Torah nous dit, si tu as envie que sur la terre d'Israël, eh bien, les choses fonctionnent comme il se doit, si tu as envie que les choses se passent de manière paisible, eh bien, c'est ici où il va falloir véritablement mettre l'accent. Donc, on comprend bien pour la Torah, la notion du juge, ça ne va pas être juste celui qui connaît. Et il y a, vous savez, quand on apprend à devenir rav, si je peux m'exprimer ainsi, il y a quelque chose qui s'appelle le chimouche. Le chimouche, c'est la fréquentation des maîtres. C'est-à-dire être proche d'eux et voir au fond et apprendre de leur comportement comment on doit se comporter, comment on doit être. C'est-à-dire que cet exemple qui nous aide à nous parfaire en tant qu'individu pour pouvoir, lorsqu'on a les connaissances et cette proximité d'individus qui eux-mêmes tendent vers cette perfection dans tous les domaines de leur existence, eh bien, à ce moment-là, pouvoir évidemment assumer, remplir ce rôle en se rappelant que les juges sont appelés Elohim, c'est-à-dire le même terme qui est utilisé pour parler de Dieu, pour qu'ils prennent conscience du pouvoir qu'ils ont, et donc ils ne jouent pas avec, et en même temps nos maîtres de dire que lorsque quelqu'un juge, il doit s'imaginer, il y a la foi, comme c'est marqué « Elohim nitzav badatkel », le verset nous dit « Dieu est présent dans l'assemblée des juges, donc tu es face à Dieu ». N'oublie pas, lui c'est la vérité, donc ne t'amuse pas à dire n'importe quoi, il faut que la personne se représente l'enfer ouvert devant ses pieds, c'est-à-dire attention, parce que de la manière dont tu vas établir le jugement, eh bien, ça peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà de ce que tu imagines. Toutes ces dimensions-là, eh bien, sont là pour nous faire prendre la mesure de la valeur, de l'importance que représente une justice droite, une justice saine, une justice dans laquelle ceux qui sont aux manettes de celle-ci, eh bien, sont dans cette droiture dans leur propre existence et donc, évidemment, à partir de cela, peuvent construire un système et une société équilibrée et qui peut perdurer surtout sur sa terre comme la Torah nous le propose.
J'avais vu dans une Gemara que un Tana avait refusé de manger quelque chose qu'on lui avait offert et ses amis Tanaïm lui disent « Mais pourquoi ?» Il dit « Il me l'a offert parce qu'il a honte, pas parce que... » C'est pas pour... Il est allé jusque-là. Parce qu'après, on lui dit, mais il a eu honte parce que t'es un Talmid Raham. C'est bien, il veut honorer un Talmid Raham. Non, non, il a juste honte. Si c'est honte, je prends pas.
Tanaïm, c'est une forme de vol. Parce que ça peut être une forme de vol.
Ah ouais.
Exact. Ouais. Il y a du chemin à faire encore.
Ben, merci pour ces très belles paroles. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et on part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, shalom, shalom aleichem, shabbat shalom.
Shabbat shalom, Rav Mordechai Biton. à Jérusalem, on continue de survoler notre paracha, et il se trouve que dans ce texte que nous lisons dans nos communautés traditionnellement le samedi, toute la semaine, mais la paracha après intervient le samedi et la séchoftim, on nous parle de trois cas d'hommes qui ne peuvent pas partir à la guerre. Et c'est très très profond, parce que vous allez nous expliquer tout ça, pourquoi ces exemples-là sont choisis, celui qui a planté une vigne, etc. Et ça veut forcément dire quelque chose. Et pour vous, Rav Mordechai Biton, ça veut forcément dire quelque chose dans ce mois de Elul, qui est un mois de préparation, qui est un mois de prière. Ça veut dire quelque chose de très profond que vous voulez nous expliquer ce soir.
Absolument. Alors, le verset dit la chose suivante. « Vedibrou hachotrib », on parle des policiers, c'est-à-dire des officiers qui encadraient les hommes qui partaient à la guerre, et ils vont s'adresser au peuple pour dire la chose suivante. « Mi hacher, mi haish », quel est cet homme qui a « bana bayit hadash », qui a construit une maison nouvelle, qui ne l'a pas inaugurée ?« Yeler veyashuv lebeto », qui retourne à la maison, de peur qu'il meure à la guerre et qu'un autre homme inaugure cette maison à sa place. Quel est l'homme qui a planté une vigne, comme vous l'avez dit justement, et qui ne l'a pas inaugurée, celui-là également retourne à la maison de peur qu'il meure à la guerre et que quelqu'un d'autre donc inaugure cette vigne. Quel est l'homme qui s'est fiancé avec une femme et qui ne l'a pas encore épousée, celui-là également, de peur qu'il meure et qu'un autre homme donc se marie finalement avec cette femme qui lui était destinée. On voit qu'il y a donc ici la maison, la vigne et la femme.
Allez, à demain.
Et on voit que ces trois instances-là, maison, vigne et épouse, sont finalement des raisons pour qu'un homme qui doit donc partir à la guerre, eh bien, ne vienne pas. Alors, on va le dire la chose suivante. Les Balé Moussard vont dire la chose suivante. Au mois de Elul, et cette paracha de Shoftim, on la lit toujours au mois de Elul, c'est le mois où on doit faire des kabbalot, et on doit prendre des choses sur soi. C'est quoi faire tshuva au mois de Elul ? On a 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah, et en tout et pour tout, 40 jours jusqu'à Kippour pour se préparer au jugement de Rosh Hashanah, mais qui se termine à Kippour. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce mois pour montrer qu'on fait tshuva et pour se mettre en quelque sorte en marche dans la progression? On va prendre sur soi des kabbalotes. On va prendre sur soi un certain nombre de choses et on va faire évidemment attention. On va devoir faire très très attention. Et là, finalement, c'est un peu ce dont nous parle ce verset. On parle à chaque fois d'un ish, d'un homme. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On veut nous dire ici que le ish dans la Torah, c'est toujours quelqu'un de très important. Et en fait, les Balé Moussard, les maîtres de l'éthique et du travail sur soi, vont dire la chose suivante. Il faut savoir que les Bnei Israël ont fauté à des moments où ils étaient au sommet de leur forme sur le plan spirituel. Quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï et qu'on était revenu au niveau de Adam Arishon, on a fauté avec le veau d'or. On était aux portes d'Eretz Israël, on a fauté avec la faute des Meraglim. On était également, à la fin du séjour dans le désert, après avoir reçu les bénédictions, entre guillemets, de Bilam. Et c'est là que les Bnei Israël vont se commettre dans la prostitution généralisée avec les filles de Moab, les filles de Midian. Dans les trois moments clés du peuple juif, le peuple juif va fauter alors qu'il est au sommet de sa forme. Eh bien, nous disent les Balé Moussard, dans le mois de Elul, c'est le mois où on est en quelque sorte au sommet de notre forme sur le plan spirituel, parce qu'on va prendre sur soi des kabbalot, on va prendre sur soi des choses. Alors on va se sentir très très fort. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on prend sur soi des choses? On risque de ne pas les accomplir jusqu'au bout. Et c'est ce que nous dit de manière métaphorique ici le verset. Quel est l'homme qui a pris une maison? L'homme qui a pris une vigne? L'homme qui a pris une épouse? Quel est l'homme qui a pris une maison? Qui a pris sur lui de construire son être? Qui est l'homme qui a pris sur lui la vigne? La vigne, c'est-à-dire qui a pris sur lui de remplir son être. Quel est l'homme qui a pris sur lui, la femme ici est une figure de la sagesse? Quel est l'homme qui a pris sur lui d'étudier la Torah, de se renforcer dans les mitzvot, de grandir en sagesse, mais qui n'a pas été jusqu'au bout de ses demandes? Et là, il y a un conseil qui est extraordinaire, et je pense qu'il faut vraiment expliquer à tout le monde, c'est qu'avant de prendre des kabbalot, avant de prendre sur soi des choses nouvelles, il faut bien vérifier si ce qu'on a fait, sur ce qu'on a pris sur nous l'année dernière, on l'a fait jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on nous dit ici. On est dans le mois de Elul, faites très attention. Quel est l'homme qui a pris sur lui un certain nombre de choses depuis l'année dernière et qui ne les a pas réalisées? Et il faut savoir une chose, c'est que nos sages de la Kabbalah nous enseignent qu'à partir du moment où un individu prend sur lui quelque chose, il a une lumière spirituelle, en quelque sorte, qui descend du ciel et qui se pose sur lui. Il a une aide spéciale du ciel. Mais cette aide, il faut lui construire une maison. C'est quoi cette maison? C'est les mitzvot qu'il va faire en rapport avec ce qu'il a pris sur lui. Alors vous avez des gens parfois qui prennent sur eux de donner des grosses sommes à la synagogue, mais qui ne donnent pas d'argent. Vous avez des gens qui vont prendre sur eux d'étudier un traité, mais qui ne vont pas l'étudier jusqu'au bout. Des gens qui vont prendre sur eux de faire telle ou telle mitzvah, mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Et ça, c'est absolument terrible. Et c'est ce que nous disent ici les Balé Moussard. les maîtres du travail sur soi, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent qu'à partir du moment où Elul arrive, la première chose qu'on doit faire avant de prendre des nouvelles décisions pour l'année prochaine, c'est de bien vérifier que ce qu'on a pris depuis l'année dernière, la maison qu'on a construite, la vigne qu'on a inaugurée, l'épouse, qui est ici une figure de la chorma, de la sagesse qu'on a prise, est-ce qu'on a été jusqu'au bout? Et il faut savoir que quand on n'a pas été jusqu'au bout, il est temps de faire un bodek abayit, c'est-à-dire de faire vraiment une vérification très sérieuse et très profonde, parce qu'il y a beaucoup de kitrugim, il y a beaucoup d'accusations sur quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout de ses demandes. Et c'est très...
Qui ne tient pas ses promesses, c'est la fameuse expression, ses promesses.
Nos maîtres nous disent, dans Michelet par exemple, vous prenez dans Michelet, Shlomo HaMelech va dire la chose suivante. Il y a un passouk qui dit, Be'atz beraglaim chote, la personne qui se presse avec ses pieds, c'est un fauteur. Et le Gaon de Vilna, il dit que lorsque quelqu'un court vers un endroit qui n'est pas le sien, c'est une faute. C'est-à-dire que à partir du moment où il va se presser de prendre sur suite des choses, alors qu'il n'a pas fini déjà d'honorer ce qu'il a fait l'année dernière, où il va prendre des choses qui sont absolument intenables pour lui, la seule chose qui risque de lui arriver, c'est que c'est un choté, c'est que c'est un fauteur. Et donc après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'individu ne peut pas, et même si lui, consciemment, ne se rend pas compte de son problème, son mazal, comme nous dit la Gemara dans Megillah, son mazal, c'est-à-dire les forces spirituelles qui le guident dans la vie, elle le voit très bien, qu'il n'a pas accompli le devoir qu'il s'était fixé, donc il va être guidé vers la tristesse, vers le désespoir, au lieu de finalement utiliser ce mois de Elul comme il faut l'utiliser, parce que ce mois de Elul, c'est un mois de joie. C'est absolument extraordinaire de penser qu'on peut réparer. Dans ce monde-ci, on peut réparer. C'est absolument extraordinaire, et ça, je voudrais bien insister sur cette idée. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent de tchouva, ils ont souvent des sentiments de regret, de culpabilité, etc. Et ça n'est pas du tout comme ça que les choses marchent. La culpabilité, c'est quelque chose qui est totalement étranger au judaïsme et à la Torah et à la relation avec Hachem. Ce qui est vrai, c'est qu'un individu peut regretter ses fautes, et à partir du moment où il les a regrettées, il rentre déjà dans le monde de ce qu'on appelle la mechila. C'est-à-dire qu'il y a déjà un pardon qui lui est donné, c'est-à-dire qu'il est débarrassé du poids de la rébellion, entre guillemets, contre la volonté d'Hachem. Donc la culpabilité n'existe pas. Dès que quelqu'un a commencé à regretter ce qu'il a fait, ça y est, c'est bon. Il est dans une autre direction, les choses sont derrière lui. Maintenant, il peut regarder devant, et il peut avancer dans sa démarche. Et ce mois-là est un mois pour lequel Yaakov a prié. Notre ancêtre Yaakov a prié pour que ce mois-là soit un mois où on reçoive l'influence divine, l'aide divine, donc pour grandir. Donc il y a là, ici, une possibilité extraordinaire, mais il faut savoir l'utiliser. D'abord, en vérifiant bien qu'on a tenu les engagements qu'on a pris, et si ce n'est pas le cas, essayer de réparer le plus possible, et en prenant des engagements qui sont à notre portée et qu'on fera tout pour tenir. Des engagements significatifs. Par exemple, dans notre génération, la plupart des Gdolim, des grands, disent aujourd'hui que ce dans quoi il faut s'efforcer de prendre des engagements, c'est dans étudier les lois du Lashon Hara, c'est-à-dire ne s'engager à ne pas faire de Lashon Hara, et la deuxième chose, dans l'étude de la Torah, et pour les femmes, progresser donc dans la tzniut, dans la prière. Alors à chaque fois, prendre sur soi des choses qui sont des choses qu'on peut tenir. Ce n'est pas la peine de prendre des choses grandioses qu'on n'arrivera pas à tenir. Prendre des choses qu'on peut tenir et qui vont nous donner de la joie et de la fierté. Je crois que c'est là qu'il faut se situer. Et c'est comme ça qu'on peut avancer de manière très joyeuse et très productive sur le plan personnel.
Eh bien voilà donc la feuille de route que vous nous donnez pour ce mois très important. Les chassidim disent « Dieu est dans les champs ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il est sorti, il est là, profite, parle-lui. Il n'est pas en haut, tout en haut, dans un château dont tu ne connais pas les clés. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir Bernard, Shabbat Shalom.
Maria Chadré, on continue sur Shoftim. Et il faut refaire parce que tu ne m'as pas dit de quoi tu allais parler.
De la justice. De la recherche d'un monde juste.
Un peu mal. Allez, on y va.
On ne peut pas rester dans un monde qui reste injuste. Moi, je ne parle que de ce que j'ai dans les tripes, tu sais Bernard.
Oui. Enfin bon, toi, c'est souvent sourcé en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Mais on y va. Mm-hmm. Pas parce qu'ils ne connaissent pas les sources, parce qu'ils ne vont pas les chercher. Allez, on y va. Mm-hmm. Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré.
Bonsoir Bernard, Shabbat Shalom.
On continue avec vous notre réflexion sur la paracha de cette semaine, sur Shoftim. Shoftim, c'est des juges, mais alors qui dit juge, dit justice. Et il se trouve qu'on a toujours un peu envie de tout confondre. le bien, le mal, le juste, le pas juste, le droit. Mais la justice, la recherche de la justice, c'est quelque chose de en soi, c'est quelque chose de spécifique. Qu'est-ce que vous, vous y voyez, Maria?
Ouais, moi, je vois un appel très, très fort à la proximité de Rosh Hashanah, hein, puisqu'on est en plein Elul. Un appel à la réflexion, vraiment à la réflexion du peuple d'Israël sur cette notion-là de justice. C'est le titre de notre parasha, Shoftim, c'est un juge. Et l'obligation d'avoir des juges qui vont juger les cas de différents, et il y en a toujours, et il y en aura toujours, bien sûr. Et donc, c'est le titre de notre paracha, mais moi, je voudrais m'arrêter plus précisément sur la fin de la paracha, sur le maftir de la paracha, dans lequel on nous relate un cas très spécial où apparemment, on ne pourrait pas obtenir de justice. Et ça, c'est terrible quand on ne peut pas obtenir de justice, quand on sent que le mal a été fait dans le monde, parce que le mal existe dans le monde, malheureusement, et qu'on ne peut pas obtenir justice. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, à la fin de la paracha, on nous relate un cas très précis d'un homme qui aurait été assassiné, qui a été assassiné entre deux villes, quelque part dans un champ, dans une forêt, en tout cas dans un lieu inhabité, entre deux villes, et on trouve son cadavre, et puis on n'a aucune idée, il n'y a pas du tout de témoin, hein, on trouve ici un homme mort, et puis il n'y a pas de témoin, on ne sait pas du tout qui est le malfaiteur, qui est l'assassinat. Et donc malheureusement, c'est très grave, à l'échelle collective c'est très grave, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir être jugé. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de se dire qu'il y a des personnes qui peuvent commettre le mal. Alors, dans notre cas précis, c'est l'exemple extrême d'une personne qui a été tuée, qui a été assassinée. Mais il est aisé pour nous d'imaginer d'autres formes d'assassinat qu'on connaît plus davantage aujourd'hui. Assassiner une personne par la parole, c'est tellement simple de faire couler son sang, mais au niveau symbolique, et de l'assassiner, de le mettre à terre. Et la Torah vient et dit « c'est pas possible ». Ce n'est pas possible une situation d'une personne à terre et qu'on ne puisse pas juger les responsables. Alors que fait-on? Alors il va y avoir toute une procédure prévue dans la Torah, une procédure qui s'appelle la procédure de la Egla Arufa. Donc c'est une génisse. On va prendre les skénim, les sages, les personnalités des deux villes les plus proches de l'endroit où a été commis le meurtre, où a été trouvé le cadavre. Et finalement, on va établir une forme de responsabilité collective. Alors, je m'explique. Qu'il n'y ait pas de responsabilité, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Et du coup, on va tirer un fil entre l'endroit où a été trouvé le cadavre et les deux villes les plus proches, et on va établir quelle est la ville la plus proche. Même s'il n'y a pas de lien certain avec la ville la plus proche, on va considérer que les sages de la ville ont une responsabilité quand quelque chose a été fait d'effroyable à proximité de leur ville. Et ils vont alors devoir amener cette génisse, la Egla Arufa, etc. Ils vont devoir, avec leurs mains, dire « nos mains n'ont pas commis, yadenu lo shafra et adamazé, nos mains n'ont pas commis ce meurtre-là », d'où l'expression en français « se laver les mains », « je m'en lave les mains », c'est de là que ça vient, parce qu'il y a toute une procédure avec leurs mains qui sont lavées, parce que tant que cette procédure n'est pas faite, il faut bien comprendre qu'ils ont une responsabilité, et que quelque part, pour se défaire de cette responsabilité, il faut arriver à une réflexion collective. Et la réflexion collective, dit le Gaon de Vilna, c'est qu'il y a ce qu'on appelle échelle. Échelle, c'est les trois premières lettres de Achila, Shina et Levaya. C'est-à-dire, quand une personne est de passage dans notre ville, on se doit de lui donner à manger, on se doit de lui donner un toit et on se doit de la raccompagner, c'est-à-dire de la mettre en garde. Attention, ne passe pas par tel endroit, il peut y avoir des brigands. C'est-à-dire apporter la totalité des besoins à une personne qui serait de passage. Et si on lui a donné un khila à manger, si on lui a donné un toit aussi, mais qu'on ne l'a pas raccompagné, qu'on ne l'a pas mis en garde sur les chemins dangereux, et à nous de comprendre la symbolique, qu'est-ce qui est dangereux de nos jours? Comment protéger les personnes de notre entourage de ce qui est dangereux? Et s'il y a danger, s'il y a une personne qui fait du mal de nos jours, peut-être davantage par la parole, comment faire pour ne pas laisser faire? Comment faire pour protéger le peuple d'Israël du mal qui existe dans le monde? Et ça, c'est vraiment, notre paracha se termine là-dessus, comme pour dire, votre obligation de chauffe-time de juge, ça va jusqu'au cas où vous pensez que vous pouvez vous en laver les mains, que vous pouvez vous dire, mais bon, bah, ça passera, c'est pas grand-chose, on ne fait rien. Non, non, ça n'existe pas. Dans la Torah, ça n'existe pas. Il n'y a pas de situation où on peut dire qu'il y a un non-lieu et la personne ne sera pas jugée. Nous avons une responsabilité collective et à nous de réfléchir très précisément à l'impact que peuvent avoir les mots, que peuvent avoir les méchancetés dans notre environnement. Et je termine en précisant que ce maftir-là, ce passage du cadavre trouvé de la Egla Arufa, est positionné dans la Torah entre deux parties qui commencent par « Kitetzel Amilchama ». Donc la partie qui va venir juste la semaine prochaine, « Kitetzel Amilchama », quand tu partiras en guerre. Et juste avant ce maftir, il y avait un autre « Kitetzel Amilchama », quand tu partiras en guerre, etc. Et donc, toutes sortes d'éléments dont il faut tenir compte quand on part en guerre. Et les Chachamim disent, voyez, entre deux passages « Kitetzel Amilchama », c'est-à-dire qu'on se parle à des soldats, on parle à des personnes peut-être qui vont vivre dans un monde violent. Dans un monde, malheureusement, il faut prendre les armes et c'est ce qu'on appelle une milchemet mitzvah, il faut protéger la terre d'Israël. Mais à ces soldats-là, au milieu de ces deux injonctions-là, autour de la milchama, on leur dit attention, attention, que jamais le fait de partir en guerre t'enlève ton humanité. Si tu étais en guerre et tu as vu des tas et des tas de morts, mais que le lendemain tu es chez toi et que tu vois une personne et qu'on n'a pas fait justice sur cette personne, sur ce cadavre-là, à toi de partir et à toi de tout faire. C'est-à-dire, ne perds pas ton humanité. Que rien dans ta vie ne te fasse perdre ton humanité, parce que toute situation est importante et nous devons collectivement de créer un monde qui soit plus juste. Alors, à l'approche de Rosh Hashanah, on a encore un petit peu 15 jours pour travailler 15 jours, 3 semaines pour peut-être faire ce travail d'introspection du mois d'Eloul. Je crois que cette semaine, le vrai travail d'introspection est la question concernant la justice personnelle, mais la justice collective aussi. Je pense notamment aux situations d'Agounot. C'est pas possible que nous ayons des situations de femmes Agounot qui n'aient pas reçu encore leur divorce religieux. Et c'est une problématique, j'ai envie de dire, internationale, de faire en sorte qu'il y ait justice et qu'il n'y ait pas de personnes qui restent sans qu'on ait prêté attention à sa douleur, et quelle que soit sa douleur. Voilà, Bezrat Hashem vers un monde plus juste. C'est ça la parachat de cette semaine.
Quel beau programme. Et vous savez ce que disent les chassidim, Dieu est dans les champs, là. On est dans Elul, il est sorti du château.
Le roi est dans le champ, il est tout proche.
Ben, le roi, c'est le même. Hein. Maria Chadré, merci pour ces belles paroles. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Bernard, à bientôt.